Ce balado est une présentation du TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval. Bonne écoute! Bienvenue au premier épisode de cette balado présentée par le Trésor de la langue française au Québec. Raymond Poirier avec vous pour explorer justement cet univers linguistique auquel le Trésor nous convie et pour l'explorer en compagnie d'un chercheur au centre qui en est également le directeur. Il s'agit de Robert Vézina. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le Trésor de la langue française au Québec, on parle d'un groupe de recherche qui existe depuis près d'une cinquantaine d'années.
Absolument, c'est le Trésor de la langue française au Québec. On appelle en fait plus régulièrement le TLFQ. C'est un groupe de recherche là, qui a été constitué au début des années 70, au départ par Marcel Junot, qui était professeur à l'Université Laval. Il a constitué une équipe d'étudiants au départ pour se donner, en fait, pour donner à l'Université Laval une infrastructure scientifique là, de recherche sur la langue française au Québec. Cette équipe a perduré jusqu'à aujourd'hui, même si les membres de l'équipe ont changé, mais de manière continue, le TLFQ a été actif depuis cette époque. C'est sûr qu'il y a eu des moments plus forts que d'autres, comme actuellement, on assiste à ce que j'appellerais une relance.
Et le Trésor, toujours avec pour mandat, pour mission, dans le fond, d'explorer, de creuser, de faire l'histoire, dans le fond, de notre parler au Québec.
Tout à fait. En fait, dans le nom même du Trésor de la langue française au Québec, bon, il y a le mot trésor, et contrairement à ce que peut-être les gens peuvent s'imaginer, ici, il n'est pas question d'un trésor comme d'un coffre au trésor, c'est-à-dire un amas de choses précieuses, quoique au sens figuré, pourquoi pas. Moi, j'aime bien là, le jeu de mots, mais ici, trésor, on fait appel à un sens plus spécialisé qui renvoie à un inventaire exhaustif des unités d'une langue, un inventaire des ressources dont dispose une langue. Et le but d'origine, là, le but poursuivi par le TLFQ, c'est justement de faire l'inventaire des ressources du français au Québec, là, des ressources lexicales essentiellement, des unités lexicales qui sont en usage ici et qui nous caractérisent le plus. Parce que faire l'inventaire de toutes les ressources du français en usage au Québec, ce serait de faire l'inventaire d'une grande partie de la langue française tout court, parce qu'on est des francophones, on utilise des milliers, des milliers, des milliers de mots et de sens, etc. Mais là, ce qui était visé, c'était de faire l'inventaire des caractéristiques lexicales propres au Québec, ou du moins qui lui donnent une identité propre. C'est-à-dire que on parle ici de mots qui ne se retrouvent pas dans ce qu'on va appeler le français de référence. Et le français de référence, c'est une convention en fait que le TLFQ s'est donné depuis déjà longtemps. Ça renvoie au français tel qu'il est décrit dans les dictionnaires conçus en France. Et donc un mot comme poudrerie, vous pouvez le trouver dans certains dictionnaires conçus en France, mais il va être marqué le sens qu'on lui donne au Québec, c'est-à-dire la neige fine là, qui virevolte au vent. Ça va être marqué Canada ou Québec parce qu'eux, ils ne l'utilisent pas. Pour eux, une poudrerie, de la poudrerie, en fait, c'est une poudrerie, c'est une fabrique de poudre. Donc, c'est complètement autre chose. Alors, le français de référence, c'est comme le point de comparaison qui sert à évaluer si tel ou tel élément du lexique est caractéristique du français du Québec. Et le TLFQ s'était donné comme objectif de documenter le plus possible l'ensemble de ce vocabulaire-là qui caractérise, je me répète, mais le français en usage au Québec.
Et évidemment, c'est un travail qui, j'ai l'impression, qui est constamment nécessaire, en fait, qui est constamment renouvelé, parce que la langue québécoise, le français au Québec n'est pas fixe depuis les années 50. Il y a toujours plein de nouveautés, des mots qui passent, qui s'ajoutent, des mots qu'on utilise un peu moins aussi, qu'on met de côté.
Absolument. D'ailleurs, on pourra en reparler plus tard, mais là, tout à fait, la langue est tellement dynamique qu'elle n'est jamais en arrêt. Là. On peut prendre des photos. Là, on peut tenter de prendre des genres de photos de la langue. Donc, des petites études ponctuelles, là, ce qu'on appelle synchronique. Là, en synchronie, c'est-à-dire dans un temps donné là, qui est assez fixe, mais comme notre approche est plutôt historique, puis en linguistique on va dire diachronique, Ben c'est une tâche gigantesque de répertorier l'ensemble de ce qui a pu se dire et se dit encore et se commence à se dire au Québec. Et justement, le TLFQ, une de ses réalisations majeures, c'est ce qu'on appelle le fichier lexical du TLFQ, et dont maintenant une partie, là, un certain pourcentage a été informatisé et qui est disponible donc en ligne sur le site web du TLFQ. Le fichier lexical, c'est le fruit du dépouillement de milliers de documents, d'archives, journaux, romans, recueils de poésie, actes notariés, récits de voyage, etc., etc. Donc, l'équipe, dès les années 80, s'est attelée à la tâche de dépouiller justement un échantillon très, très important de l'ensemble de ces types de ressources-là, les ressources écrites. Ça a donné ce qu'on appelle le fichier lexical, c'est-à-dire que chaque mot ou sens qui était noté comme pouvant être caractéristique du français d'ici faisait l'objet d'une fiche, en carton, où on écrivait en entrée le mot, par exemple « poudrerie ». On mettait un extrait de la source où le mot « poudrerie » figurait, avec les références de dans quel ouvrage on a trouvé ça, à quelle page, etc. Et c'était classé dans des classeurs. Ces classeurs-là existent toujours. Et je pense qu'il y a au-delà de 1 200 000 mots qui ont été répertoriés comme ça, en tout cas, citations. Et maintenant, ben, ça fait partie du trésor du TLFQ, parce que c'est vraiment une entreprise qui serait très difficilement reproduisible aujourd'hui. Ça a été un travail de moine, là, et des dizaines et des dizaines de personnes y ont contribué.
Et j'imagine, Robert, vous parlez un peu en connaissance de cause aussi à travers tout ça, parce que oui, aujourd'hui, vous avez été nommé directeur du Trésor, mais vous y avez aussi été auxiliaire de recherche en étant plus jadis.
C'est vrai. Quand j'ai commencé à étudier en linguistique, là, rapidement, j'ai réussi à me faire embaucher comme auxiliaire de recherche. Puis d'ailleurs, une de mes premières tâches, ça a été de faire des fiches pour le fichier lexical. Et donc, ça a été une expérience enrichissante. Puis j'y ai resté là, de nombreuses années, là, et j'ai même pu toucher à la rédaction d'articles pour le dictionnaire qui a été publié en 1988, le dictionnaire historique du français québécois, qui est une autre réalisation majeure du TLFQ. On y reviendra plus tard. Justement, c'est un retour aux sources pour moi, tout à fait. Je me sens en terrain connu.
Et qu'est-ce qui vous avait amené, peut-être justement, parce que on l'a dit, vous êtes passé ici, vous êtes de retour maintenant comme directeur, à lever la main peut-être pour dire ben, j'ai envie de m'investir dans cette relance dont on parle justement du Trésor.
Je considère que la description du français du Québec sur le plan historique, c'est une œuvre plus qu'importante parce qu'elle contribue à la préservation, d'une part, la préservation du patrimoine linguistique des Québécois francophones, mais en fait de l'ensemble des Québécois, j'oserais dire. Et la mise en valeur de ce patrimoine-là est également un objectif poursuivi par le TLFQ. Donc, ce travail-là que nous poursuivons, selon moi, il est fondamental pour toute société qui aime et qui a besoin de jeter un regard sur le chemin qu'elle a parcouru sur le plan linguistique depuis qu'elle est implantée quelque part. Nous, ça fait déjà au-dessus de 400 ans qu'il y a une communauté francophone ici en terre d'Amérique, là. De pouvoir justement bénéficier de descriptions historiques de l'ensemble des ressources que ce français-là avait au départ et a développé au fil des ans, des décennies, des siècles, c'est un exercice qui est très enrichissant et qui est fondamental pour la mémoire collective.
Oui, en fait, comprendre notre langue, comprendre comment notre langue s'est construite, c'est se comprendre soi-même comme peuple, comme nation, comme entité.
Très bien dit. D'ailleurs, comme je le dis, j'emploie souvent cette formule-là dans mes présentations, c'est la langue à la mémoire longue. Une langue a une plus longue mémoire, une meilleure mémoire que les gens qui la parlent. D'une part, parce qu'elle survit aux gens qui la parlent. La langue a ceci comme caractéristique, c'est qu'une fois qu'elle s'est imprégnée d'un événement ou de quelque chose, d'une innovation, ben, cette innovation-là reste longtemps dans la langue. En tout cas, souvent, ça reste longtemps et ça survit aux locuteurs de cette langue-là. Et ce qui fait en sorte qu'au fil des années, au fil des siècles même, on voit différentes couches dans cette langue-là qui se sont superposées et qui, chacune, relate des petites histoires qu'on a, dans certains cas, des histoires qu'on a oubliées, mais la langue nous les rappelle indirectement. Alors, le chercheur, le lexicographe, peut aller déterrer ces histoires-là en faisant l'analyse de l'histoire des mots, de certaines expressions, et ça on peut même exhumer, entre guillemets, des événements historiques. Bon, tout le monde, des exemples faciles, des exemples très faciles. Bon, le fait qu'on dise blé d'Inde, ben, ça rappelle qu'il y a plus de 500 ans, il y a des gens, des Européens ont cru, en arrivant en Amérique, dans les Amériques, qu'ils étaient aux Indes, comme on disait à l'époque. Donc, le blé d'Inde, ça renvoie à ça, là. Donc, et maintenant, quand on dit une épluchette de blé d'Inde, personne, en tout cas selon moi, pense directement à l'Inde. Donc, mais le mot rappelle cette histoire-là.
Et de par l'importance, j'ai l'impression, du travail qui est fait ici de documentation, donc ça met un peu de l'avant deux axes, j'ai l'impression, pour le TLFQ. Donc, d'un côté, il y a l'aspect recherche, l'aspect documentation, le travail qui se fait de ce côté-là, et de l'autre, le rôle un peu de passeur que peut prendre ce groupe de recherche-là, à travers une certaine ouverture qu'on peut avoir auprès de gens qui n'ont pas nécessairement d'intérêt envers la langue, mais de leur apprendre, de leur faire prendre conscience de ce qu'on est en train de se dire, dans le fond.
Vous avez absolument raison. Les travaux qui sont menés au TLFQ, les produits qui peuvent en être dérivés, là, peuvent servir à l'ensemble des Québécois, dont pas seulement les spécialistes, ça, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est vrai que nos travaux et bon, notre dictionnaire qui a été publié, nos outils en ligne comme le fichier lexical informatisé, ce dont je n'ai pas parlé aussi, l'index lexicologique québécois qui est un outil très très populaire auprès des chercheurs en lexicologie et en lexicographie, qui répertorie d'ailleurs l'index dont je viens de parler, qu'on appelle l'ILQ dans notre jargon, ça répertorie l'ensemble des chroniques de langue, bref, des passages où il est question d'un mot, d'une expression, mais sur le plan analytique, sur le plan des opinions, sur le plan de ce qu'on en dit. Donc ça a été dépouillé là, dans les années justement, en même temps que les travaux sur le fichier lexical ont été conduits. Donc l'ILQ, pour en reparler une autre fois, c'est tellement un sujet en soi, tout ça peut servir directement aux spécialistes. Puis ça, on s'en cache pas, c'est surtout les spécialistes qui vont consulter ces outils-là. Mais le fruit de nos travaux gagne à être connu d'un public plus large et on en est conscient. D'ailleurs, assez rapidement, les gens de TLFQ, notamment Claude Poirier, qui a été longtemps le directeur, d'ailleurs je pourrais en reparler, là, mais Claude Poirier, mais il n'est pas le seul, mais quand même, ils avaient trouvé important de lancer une chronique de langue dans une revue qui était populaire pendant très longtemps, le Québec français, qui était surtout distribuée là, aux enseignants du français au Québec. Et c'était des textes vulgarisés en général là, qui reprenaient le fruit de telle ou telle recherche qui expliquait l'origine de tel mot, telle expression ou de tel phénomène plus large. Et ça traduisait justement auprès de gens moins spécialisés dans la recherche linguistique ces faits de langue-là qui pouvaient susciter des questionnements, notamment à ceux qui ont à enseigner le français à des francophones, des élèves francophones, et même à des élèves néo-francophones ou des allophones, comme on le dit maintenant, et même des élèves anglophones qui apprennent le français comme langue seconde. Donc, et cet aspect-là des choses est encore plus important, je dirais, aujourd'hui qu'à l'époque de la création du TLFQ.
Et avec le TLFQ, l'avantage qu'on a aujourd'hui, évidemment, on relance le groupe de recherche, on se développe, on se dote de nouveaux outils, et justement, ben, avec un site Internet, on va être capable d'animer, on va être capable d'amener ce type de réflexion-là. Et dans l'optique, j'imagine aussi de se dire, ben, les gens vont pouvoir aller sur notre portail web de façon régulière, la mettre dans ses favoris, comme on dit, parce que cette information-là dont on parlait, qui était jadis diffusée dans des magazines, va pouvoir l'être sur directement un portail web et même concentré sur ce portail-là.
Vous avez très bien décrit ce qu'on souhaite et ce qu'on entend faire avec le nouveau site web du TLFQ. Donc, qui vient d'être mise en ligne, là. Donc, dans ce site web-là, il va y avoir justement les outils spécialisés qui vont toujours être présents et disponibles pour les chercheurs. Et même ceux qui ne sont pas vraiment des chercheurs, mais qui veulent se promener là-dedans, pourquoi pas, ils peuvent faire des découvertes intéressant, en particulier dans le fichier lexical informatisé. Il y a toutes sortes de citations fortes intéressantes là-dedans. Mais on va développer d'autres types d'outils, mais en fait, ce ne sera pas vraiment des outils en tant que tels, mais des produits qui vont traduire différentes facettes de nos recherches à un public beaucoup moins spécialisé.
On parle de relance pour le TLFQ. C'est une relance aussi qui est appuyée par des financements.
Ah, vous avez tout à fait raison. En fait, on bénéficie d'un gros financement là, du gouvernement du Québec. On est très reconnaissant, là, donc qui permet justement la relance de différentes activités et la poursuite de différents projets dont il est question dans ce balado. On veut mettre l'accent, entre autres, sur le multimédia. D'autres chroniques vulgarisées ont été écrites et seront encore produites. Des jeux questionnaires sur la langue qui vont renvoyer à des données qui sont disponibles dans notre futur dictionnaire, dont je reparlerai tout à l'heure. Il y aura des balados, on est en train d'en faire un, mais donc ça, c'est totalement nouveau pour le TLFQ. Les balados n'existaient pas il y a encore pas très longtemps. Il y a un beau projet dont les fruits sont déjà visibles, un projet tel que les fins mots de l'histoire, donc avec des textes qui ont été demandés à différents auteurs, autrices et certains spécialistes de domaines comme la sociologie, l'histoire, par exemple.
C'est ça, donc on n'est pas avec des spécialistes de linguistique, on va chercher plutôt des gens qui agissent un peu comme observateurs, à différents degrés observateurs du monde, et vous leur demandez, dans le fond, leur regard sur un mot, sur une locution, dans le fond.
En fait, c'est en plein ça. Les fins mots de l'histoire, le point de départ de ce projet-là, c'est celui-ci. Donc, nous, dans un dictionnaire, par exemple, dans nos recherches, les analyses que nous effectuons en tant que lexicographe, on peut en arriver à une description très fine d'un mot, par exemple. Donc, son orthographe, son genre grammatical, ses différents sens, sa prononciation, etc. Donc, on donne une description linguistique qui permet de savoir de quoi on parle. Et c'est très utile, puis c'est vraiment la base de notre travail. En plus de ça, avec nous, notre approche historique et philologique, puisque c'est quelque chose qui est important d'être mentionné, c'est-à-dire que notre travail s'appuie sur des sources consultables. Donc, on s'appuie pas sur des exemples qu'on invente dans notre tête, là, même si les exemples qu'on invente dans notre tête peuvent être excellents. On s'appuie sur des sources écrites. Puis des fois, des sources écrites, c'est des transcriptions de sources orales, hein, parce qu'il y a des enquêtes linguistiques conduites à différentes époques qui ont été transcrites et dépouillées. Et donc, tout ça fait partie de notre corpus d'analyse. On peut faire des articles qui comportent donc des citations. Même beaucoup de citations dans certains cas, tirées de sources réelles. Tout ça peut contribuer à donner une certaine image de la valeur culturelle de tel ou tel mot. Si vous lisez, par exemple, l'article portant sur le mot « Poutine », ben, vous allez voir des citations qui permettent de comprendre un peu, il y a un des sens de Poutine. En fait, l'ensemble des sens de Poutine, en général, en tout cas, les sens premiers, c'est des choses qui se mangent. On peut voir dans les citations que les gens peuvent trouver ça bon, etc. On peut trouver ça dans des casse-croûtes. Donc ça, c'est des éléments culturels qu'on mettra pas dans une définition de dictionnaire. C'est le fait que c'est bon, que des gens...
Ou même la fabrication qui peut varier, parce que j'imagine qu'une poutine en Acadie, une poutine au Québec, c'est pas la même chose non plus.
C'est vraiment deux sens différents. Mais l'idée des fins mots de l'histoire, c'est de demander à des auteurs, des autrices, dans certains cas, des spécialistes de d'autres disciplines que la linguistique, de prendre le mot comme point de départ à un développement personnel ou une observation personnelle qui va révéler du moins certains aspects culturels qui ne sont pas dans notre article de dictionnaire en tant que tel. Et ça, je trouve ça très intéressant, en fait, de voir que tel auteur a, pour lui, le mot évoque telle chose. On peut lire son texte, donc, par exemple, qui est de nature littéraire, et ça ouvre la porte sur l'univers culturel des Québécois, qui est d'une immensité infinie, Mais tel auteur et telle autre autrice, par exemple, ont un regard personnel qui permet aux gens du Québec et même ceux de l'extérieur de découvrir ou de redécouvrir une de ces dimensions culturelles-là qui émanent du mot en tant que tel.
Et à ça, on jouxte aussi, dans le fond, des illustrations. Donc, il y a 16 illustrateurs qui vont accompagner aussi ces 16 mots-là qui interprètent le mot. Et j'imagine que ces genres de projets, à la fois pour nous, grand public, dans le fond, on plonge, ça nous permet de plonger différemment, peut-être de prendre conscience justement de l'héritage, la richesse d'un mot, des observations qu'on peut en faire. Et j'imagine pour le lexicographe comme vous, ça se permet aussi de s'offrir des surprises, de voir quelle manière justement l'observateur va avoir abordé cette problématique-là, peut-être même de vous allumer des lumières nouvelles par rapport à des champs d'exploration, de réflexion.
Vous avez entièrement raison. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de le mentionner. Donc, dans les textes en tant que tels, à mesure qu'ils sont diffusés sur notre site web, ils sont accompagnés d'illustrations originales qu'on a demandé à des illustrateurs québécois de faire, et même dans plusieurs cas, des étudiants de l'Université Laval là, qui étudient, par exemple, en art graphique. On est très content de ce qui a été fait puis ce qui sera fait. Donc, ça accompagne, ces illustrations-là accompagnent et même apportent un regard original sur le texte, sur le mot lui-même en tant que tel. Là. Donc, c'est vrai que ça fait partie du projet en lui-même. Et oui, ce que vous venez de dire sur le projet est tout à fait véridique et ça peut nous ouvrir toutes sortes de portes. Moi-même, en lisant les textes, j'ai eu des surprises, de très bonnes surprises. Et dans certains cas, ça peut même nous influencer dans l'analyse du mot, dans une analyse subséquente du mot, là, en termes de description dictionnairique. Là.
Oui, parce que on revient dans le fond toujours à cette idée d'une certaine régionalisation de l'imaginaire autour d'un mot, dans le fond, qui devient essentiel pour sa compréhension, pour sa mise en perspective, pour saisir sa place dans l'évolution aussi, dans son évolution à lui, autant que dans l'évolution de la langue.
Ouais, vous avez raison encore une fois. Donc, ce projet-là, justement, on a fait des efforts particuliers pour aller chercher des auteurs, des autrices de différentes régions du Québec, différents âges, de différents courants littéraires, entre guillemets. Donc, pour avoir une palette beaucoup plus, tu sais, la plus large possible des expressions, des points de vue qui peuvent être exprimés à travers ces textes-là, mais toujours le point de départ, c'est un mot du français du Québec. On en est très fiers de ce projet, puis honnêtement, là, je trouve le fruit de ce projet-là extrêmement intéressant.
Et ça montre, en fait, c'est un des pans justement de cette relance, et je pense qu'on comprend bien de ce que vous en dites, que c'est une relance qui se fait dans la continuité. Donc, il y a toujours eu une volonté, justement, de faire sortir la recherche, de la transférer, de la passer vers le public, autant que d'animer une communauté de chercheurs qui est bien positionnée autour de ce groupe-là. Un groupe qui, d'ailleurs, a eu et a un impact et reconnu dans le domaine. C'est une référence, voire même la référence, là.
Ben, on se plaît à penser. Donc, c'est sûr que le Trésor de la langue française au Québec est un gros joueur dans le domaine là, de la recherche sur l'histoire du français au Québec, là, l'histoire interne du français, pas tellement l'histoire externe. Puis quand je dis l'histoire interne, c'est la langue elle-même, donc son évolution en tant qu'objet de communication et objet culturel et patrimonial et même identitaire. Donc, le TLFQ jouit d'une très bonne réputation à cet égard. Et donc, la poursuite des travaux, la relance des travaux dans d'autres directions, dans certains cas, ne peuvent, j'ose espérer, que contribuer au maintien de cette bonne réputation-là que le TLFQ a, et même au-delà de l'Atlantique. Les travaux du TLFQ ont beaucoup attiré l'attention là, en Europe, en tout cas à une certaine époque, là, c'est encore un peu vrai. Là, donc, on veut maintenir ces liens-là et cette influence qu'on peut exercer là, positivement sur la recherche portant sur l'histoire interne du français au Québec. Là. Donc, nos outils, d'ailleurs, sont ouverts à tout le monde, sont disponibles à quiconque veut les utiliser. Donc, il y a un souci donc de démocratisation qui est très ancien au TLFQ. Donc, ce n'est pas des outils qu'on a développés uniquement pour nous. Donc, les chercheurs en profitent. Puis, pas seulement les chercheurs en linguistique, là, même pour les historiens, par exemple, il y a des outils, encore une fois, le fichier lexical, qui sont utilisés et qui leur permettent de trouver des choses très intéressantes pour leur propre recherche. Je sais même qu'il y a des fois des romanciers, des romancières qui ont déjà fouillé là-dedans aussi, puis ça leur a permis là, de comprendre mieux l'usage de certains mots dans des contextes historiques, puis ça les a aidés dans leur écriture. Donc tout ça participe là, de l'utilité sociale des travaux qu'on mène au TLFQ, puis on est content là, de continuer dans cette voie-là.
Et Robert Vézina, on a ouvert plusieurs fois la porte à un projet majeur, et je souligne le côté majeur, le dictionnaire historique du français québécois. J'ai l'impression qu'il faut s'offrir le luxe d'une autre conversation pour explorer concrètement et adéquatement ce vaste chantier-là, puisqu'il y a une revision, une version 2 de ce dictionnaire qui s'amorce également avec cette relance. Alors, si vous le voulez bien, j'ai envie qu'on se retrouve dans le second épisode de cette balado. Et d'ici là, Robert Vézina, je le rappelle, vous êtes directeur donc, du Trésor de la langue française au Québec. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous.
Tout le plaisir était pour moi. Merci, Raymond.